Nous allons parler cet après-midi de la crainte de Dieu. C'est un sujet qui est souvent présent dans la Bible, et j'ai choisi ces deux textes parce que la crainte de Dieu était une réalité dans la première Église. On en parle souvent, le mot revient à plusieurs reprises, et il ne fait aucun doute que cette crainte de Dieu était un élément moteur dans le développement de la vie de l'Église. Il existe différentes sortes de craintes. D'ailleurs, quand on parle de crainte, on pense parfois à ce que j'appellerais une crainte stérile. C'est une crainte qui est plus une frayeur qu'une vraie crainte. Nous verrons tout à l'heure que la crainte de Dieu, ce n'est pas une vraie frayeur. Par contre, nous voyons que, par exemple, dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, quand ils se sont laissés tromper ou laissés convaincre par le diable qu'ils pouvaient manger du fruit défendu, nous voyons que après cela, ils ont pris conscience de leur culpabilité et ils ont été effrayés. Et parce qu'ils étaient effrayés, ils ont décidé de se cacher de Dieu, comme si on pouvait se cacher de Dieu. Dieu voit tout, Dieu voit partout, et c'est une véritable crainte, mais une crainte qui était plus une peur réelle de Dieu. Ils ont eu peur, premièrement des conséquences de leur acte, et ensuite ils ont eu peur de la réaction de Dieu. Ils s'étaient laissés convaincre pendant un instant par Satan, qui leur avait dit « Mais si vous mangez de ce fruit-là, comme de tous les autres, il ne vous arrivera rien. Au contraire, ce sera même encore mieux que les autres. » Parce qu'il ouvrira vos yeux et vous connaîtrez tout comme Dieu. Et vous savez que parfois, pendant un instant, on se laisse convaincre et après on regrette longtemps ce qu'on a fait. On regrette longtemps de s'être laissé convaincre. Parfois, on peut être victime, par exemple, permettez-moi l'expression, même si elle n'est pas très courante dans les sermons, on se fait arnaquer, tromper par des gens. Et on se dit, mais comment ai-je pu être aussi naïf? Comment ai-je pu me laisser convaincre et maintenant je vais le payer cher? La crainte, cette crainte-là est une crainte stérile parce qu'elle n'apporte rien de concret. Nous verrons tout à l'heure que la crainte, la vraie crainte de Dieu, est une crainte qui est très productive. On peut penser en matière de crainte stérile aussi à la crainte de ce serviteur dans la parabole des talents. Vous savez que le maître des serviteurs avait donné 10 talents à l'un, 5 à l'autre et 1 au dernier. Et il nous est dit que ceux qui avaient reçu 10 et 5 talents ont fait fructifier ce talent et ils en ont reçu encore d'autres. Encore 10 et 5 autres. Mais celui qui en avait reçu un seul a eu peur. Peut-être s'était-il dit, mais pourquoi moi j'en ai qu'un? C'est peut-être pas très bon signe pour moi. En tout cas, le don qu'il avait reçu, il devait le faire fructifier comme les autres. Et la Bible dit qu'il a eu peur, et au lieu de le faire fructifier, il est allé le cacher. Parce qu'il s'est dit, peut-être, si jamais j'arrive mal à le faire fructifier, je vais avoir droit à un sermon, j'allais dire. Je vais me faire disputer parce que j'ai mal utilisé mon talent. Alors il s'est dit, pour ne rien risquer du tout, je ne fais rien, je le cache, comme ça au moins on ne me fera pas de reproche sur ma manière d'utiliser mon talent. Le seul problème, c'est que quand on reçoit un talent, il faut l'utiliser. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs de temps en temps, mais vous savez qu'il a eu peur, et c'est pour cela qu'il a dit « j'ai peur de mon maître, je le crains ». Mais ça, c'est encore de la crainte stérile. Pourquoi ? Parce qu'elle n'apporte rien de concret. Elle ne porte pas de fruits. Elle n'entraîne pas d'actions qui servent à quelque chose. J'ai remarqué que quelquefois, dans certaines églises, quand on veut prendre la Sainte Cène, le pain et le vin, donc, pour commémorer le sacrifice de Jésus, il y a des gens qui ne veulent pas la prendre parce que ils ont peur que s'ils la prennent, j'ai rencontré ça plusieurs fois dans les églises, ici à Paris, parce qu'ils ont peur que s'ils la prennent et qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon dans la semaine, ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Et ça aussi, c'est une crainte stérile. Parce que Jésus n'a pas institué la Sainte Cène pour qu'on s'en prive, mais pour qu'on la prenne. Alors, il y a donc cette crainte stérile, et puis il y a d'autres craintes qui sont, elles, beaucoup plus utiles. La crainte de Dieu, je crois que ça passe d'abord par la prise de conscience de sa présence. La Bible nous parle dans le livre des Actes d'un homme qui s'appelait Corneille. C'était, nous dit la Bible, un officier romain qui craignait Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu, il faisait des aumônes, il priait, il était pieux, donc religieux, il pratiquait la religion, il était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui une sorte de sympathisant. Il avait du respect pour Dieu et pour ceux qui pratiquaient sa religion. Et il nous a dit qu'il craignait Dieu, donc c'était un craignant Dieu. Nous avons dans la Bible l'exemple d'autres gens qui ont craint Dieu d'une vraie manière, de la manière vraie, la seule manière vraie. Je pense par exemple à Jacob. Jacob qui a fui son frère Ésaü parce qu'il avait commis une faute, il avait volé à son frère Ésaü la bénédiction qui revenait naturellement à Ésaü parce qu'il était le frère aîné. Et la Bible dit que quand Ésaü s'est rendu compte que son frère, en quelque sorte, avait trompé leur père, lui avait fait croire qu'il était Ésaü, lui, Jacob. Alors le père a trouvé un peu bizarre la voix de ce nouveau Ésaü. Il trouvait qu'il avait cependant la même peau que son frère Ésaü, parce que il s'était trafiqué, il s'était recouvert de vêtements, de peau de bête. Et alors le père s'est dit, bon, c'est lui, c'est mon fils Ésaü. Mais quand Ésaü s'est rendu compte que son père avait béni son frère par erreur et qu'il ne pouvait pas lui accorder à lui aussi une autre bénédiction, une deuxième bénédiction, il nous a dit qu'il a cherché à tuer son frère Jacob. Et Jacob a pris la fuite. Il a pris la fuite parce qu'il avait trompé son frère, parce qu'il lui avait volé la bénédiction. Et la Bible dit que dans la nuit, il a eu un songe. Il a vu une échelle sur laquelle descendaient et montaient des anges de Dieu, depuis le ciel jusqu'en bas, et puis remontaient ensuite. Il a eu un rêve, et il nous a dit que lorsqu'il s'est réveillé de ce rêve, il a ressenti la crainte de Dieu, il a ressenti la crainte de Dieu parce qu'il a pris conscience de la présence de Dieu. Jusque-là, Jacob n'avait pas été vraiment conscient de la présence de Dieu. Il ne s'était pas rendu compte que Dieu existait, il ne s'était pas rendu compte qu'il savait que Dieu existe puisqu'il avait cherché à avoir la bénédiction qu'on appelait la bénédiction de Dieu. C'est celle-là qu'il avait volée à son frère. Mais je crois que la vraie crainte de Dieu, c'est d'abord la prise de conscience au quotidien de la présence de Dieu en tout lieu et en tout temps. Dieu est toujours là, à côté de nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Dieu voit tout ce que nous faisons, que nous soyons croyants ou non. Dieu est toujours là. Dieu voit tout ce que font même les incroyants, parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, et Dieu est présent partout. Nous avons un autre exemple dans la Bible, beaucoup plus fructueux celui-là, de quelqu'un qui craignait Dieu. C'est Joseph, justement le fils, l'un des fils de Jacob, son 11e fils, puisqu'il en a eu 12. Joseph est un exemple remarquable d'une personne qui a vécu dans la conscience, je dirais permanente, de la présence de Dieu. Vous savez que Joseph a vécu beaucoup d'épreuves. Il a été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui parce qu'il était le préféré de leur père. Et il est devenu serviteur d'un chef en Égypte, esclave, on pourrait dire. Il a été vendu comme esclave d'ailleurs. Et il s'est retrouvé dans une maison qu'on aurait pu croire hostile. Mais Dieu a permis que dans cette maison où il était étranger, esclave, Dieu a permis qu'il soit béni. Pourquoi cela? Parce que Joseph était constamment conscient de la présence de Dieu. À quoi le voit-on? D'abord à deux choses. La Bible dit que dans chacune des épreuves qu'il a traversées, Joseph, le Seigneur était avec lui. C'est écrit dans la Bible. À plusieurs reprises, le Seigneur, l'Éternel, était avec lui. Donc, nous savons qu'il était là. Mais nous savons aussi que Joseph était conscient de cette présence de Dieu avec lui, parce qu'il s'est comporté toujours comme un fidèle enfant de Dieu. En travaillant d'une manière qui respecte Dieu et qui l'honore, dans un milieu apparemment hostile, Joseph a montré qu'il croyait non seulement que Dieu existe, mais qu'il est présent avec ses enfants, là où ils sont, quel que soit leur mode de vie, les conditions de leur vie. Joseph ne s'est pas posé de questions inutiles. Quand il est entré dans l'épreuve, déjà lorsqu'il a été vendu par ses frères, puis lorsqu'il est arrivé chez son nouveau maître en Égypte, puis lorsqu'il a été jeté en prison pour avoir refusé les avances de la femme de son maître, tout cela parce qu'il croyait en Dieu, tout cela était le résultat de sa crainte de Dieu, mais d'une crainte fructueuse. Une crainte fructueuse, c'est une crainte qui nous pousse à nous conduire comme Dieu le veut. Par cela, nous prouvons notre foi dans la présence de Dieu. Partout où nous allons, chaque jour, nous avons l'occasion de montrer notre respect de Dieu. Dans les actions que nous faisons, dans les paroles que nous exprimons, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons montrer notre crainte de Dieu, c'est-à-dire notre véritable crainte de Dieu. Le roi David a démontré lui aussi sa crainte de Dieu, c'est-à-dire sa foi, sa conviction dans le fait que Dieu est vivant et qu'il nous voit. Vous savez, vous connaissez l'épisode où il s'est retrouvé un jour dans une grotte où se trouvait également le roi Saül. Je rappelle que le roi Saül ne marchait pas dans les voies de Dieu, il ne faisait pas la volonté de Dieu, il cherchait toujours à être le centre de tout, et à un certain moment, il avait essayé à plusieurs reprises de tuer son successeur, le futur roi David, parce qu'il savait qu'il allait lui succéder un jour. Et un jour, David a eu l'occasion de se débarrasser de Saül, celui qui avait cherché à plusieurs reprises de le tuer. Il aurait pu se dire « Ce que je vais faire est légitime, puisque Saül a essayé plusieurs fois de me tuer ». Ses amis à David qui étaient avec lui lui ont dit « Regarde David, c'est une occasion unique que Dieu te donne. Tu vas pouvoir accomplir le plan de Dieu, puisque de toute façon Dieu a dit que c'est toi qui allais être le prochain roi. En plus, le roi Saül ne marche pas dans les voies de Dieu. C'est quand même mieux d'avoir un roi qui marche dans les voies de Dieu, comme toi. » Parce que la Bible dit que David marchait dans les voies de Dieu. Eh bien, David a refusé d'écouter ses amis. Vous savez, parfois, il vaut mieux ne pas écouter ses amis. Il y a des jours où il faut les écouter. Mais il y a des fois, des jours où ils peuvent nous donner de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Et la Bible dit que David a refusé donc de tuer Saül, mais il a fait quelque chose pour bien lui montrer qu'il aurait pu le tuer, sans le faire. Il a découpé, nous dit la Bible, un tout petit bout du manteau de Saül. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, un roi n'a pas qu'un manteau. Un roi, généralement, a une garde-robe bien garnie. Si lui ne l'a pas, qui va l'avoir? Alors, David a découpé le manteau, a enlevé un petit morceau du manteau de Saül, et la Bible dit que même lorsqu'il a fait cela, ce n'était rien par rapport au fait de tuer le roi, mais même lorsqu'il a découpé un bout du manteau, il a commencé à sentir son cœur qui battait plus vite. Il s'est senti coupable, rien de cela. Cela montre à quel point David était conscient de la présence de Dieu, et cela montre à quel point il pratiquait ce que nous appelons la crainte de Dieu. Si j'ai conscience en permanence de la présence de Dieu dans ma vie et dans celle de l'Église, je vais forcément me comporter différemment de ceux qui n'en sont pas conscients. Je vais veiller, par exemple, à tout ce que je dis. Je vais faire attention à mes paroles. Comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Dans tout ce que je dis, je vais veiller afin que ce que je dis puisse être, comme il est écrit ici, une parole constructive. Je vais essayer d'encourager les gens. Je vais essayer de les fortifier. Je vais essayer de les édifier, de les construire. Mais je dois aussi veiller à tout ce que je fais, toutes mes actions. Non seulement parce que d'autres me voient, mais d'abord parce que Dieu me voit. Jésus a employé une phrase très forte à ce sujet, il a dit « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, on pourrait dire tout ce que vous rêvez que les gens fassent pour vous, eh bien faites-le pour eux. » Peut-être qu'il voulait dire par là, comme ça éventuellement ça leur donnera envie de le faire aussi pour vous après. Même si dans la vie chrétienne nous ne devons pas faire des choses en attendant d'être payés en retour. Nous le faisons parce que cela plaît à Dieu. Et puis, la crainte de Dieu, c'est aussi veiller à tout ce que nous pensons, veiller à nos pensées. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, dit que nous devons penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être approuvé, tout ce qui est moralement bon et digne de louange. Voilà à quoi nous devons penser. Nous devons veiller sur nos pensées, parce que en veillant sur nos pensées, nous vivrons d'une manière qui plaît à Dieu, nous montrerons, nous serons conscients de sa présence, et par là même, nous craindrons vraiment Dieu d'une manière utile. Il y a un dernier exemple que vous connaissez bien sans doute, c'est celui de Noé. Noé qui avait entendu Dieu lui dire que bientôt il allait envoyer une grande catastrophe sous la forme d'un déluge d'eau. Et Dieu a dit à Noé, je vais bientôt envoyer le déluge d'eau, donc il faut que tu construises un bateau, parce que tu feras rentrer dedans un couple de toutes les espèces d'animaux pour pouvoir les préserver pour la suite, et tu feras rentrer dedans tous ceux qui écouteront ce que tu vas dire, tous ceux qui écouteront ta prédication, puisque dans un texte de la Bible, du Nouveau Testament, Noé est appelé un prédicateur de la justice. Et Noé a écouté Dieu, mais il n'a pas trouvé grand monde pour l'écouter. Juste sa femme et ses enfants, et ses, comme on dit, ses beaux enfants, ses fils et la femme de chacun de ses fils. Mais la Bible dit que quand Dieu, et c'est là le point important pour nous cet après-midi, quand Dieu a parlé à Noé, Noé aurait très bien pu se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pluie diluvienne? Qu'est-ce que c'est ce déluge d'eau? On n'a jamais vu ça. Et vous savez, des fois, quand on n'a jamais vu quelque chose, on a du mal à y croire. D'ailleurs, il y a une expression en français qui dit, je ne crois que ce que je vois. Donc ceux qui disent cela ne croiront jamais au nouveau, à la nouveauté, parce qu'ils attendront de le voir. Noé a entendu Dieu lui parler, et il a été tout de suite convaincu que c'était Dieu qui parlait. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, nous devons être toujours convaincus que c'est Dieu qui parle. Et parce que c'est Dieu qui parle, ce qu'il dit est plus important que tout le reste. Noé a entendu Dieu. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, je crois, la Bible dit que Noé, en entendant la parole de Dieu, en entendant Dieu lui parler, Noé a été saisi, pas seulement pris, mais saisi d'une crainte respectueuse. En d'autres termes, il a cru tout de suite que c'était Dieu qui parlait, et il a pris, comme le dit une autre traduction, il a pris Dieu au sérieux. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. C'est pour cela qu'il s'est mis à construire l'arche. Même si tous ses voisins se moquaient de lui, même si peut-être la famille éloignée se moquait de lui, seuls sa femme et ses enfants et leurs épouses croyaient que c'était la parole de Dieu, puisqu'ils, je suppose, ils l'ont aidé à construire cette arche. Et ils sont rentrés dedans ensuite, ce qui prouve bien qu'ils y croyaient, eux aussi, au déluge. Mais Noé, malgré tout cela, malgré l'opposition, malgré les moqueurs, parce qu'il y avait aussi des moqueurs, bien sûr, voyant ce qu'il faisait, ils se sont dit, mais c'est n'importe quoi, on n'a jamais vu un déluge d'eau tomber sur la terre, ça n'arrivera jamais. Et donc, Noé a construit parce qu'il avait été saisi d'une crainte respectueuse pour Dieu. Il a donc pris Dieu au sérieux, et parce qu'il a pris Dieu au sérieux, il a eu un comportement constructeur, fructueux. C'est cela, la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est lorsque nous prenons conscience de l'existence et de la présence de Dieu dans notre vie, et que nous nous conduisons de manière en rapport avec cette crainte que nous professons. Je voudrais maintenant aborder un dernier point, terminé par un exemple de l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, nous lisons cette histoire extraordinaire de un jour Jésus est venu prêcher sur les bords du lac de Galilée, donc au nord du pays d'Israël, et au bout d'un moment, il a vu au bord du lac deux barques. Enfin, il en a vu une surtout, et il est rentré dans cette barque pour pouvoir s'éloigner un petit peu et pouvoir prêcher devant toute la foule qui était sur le rivage, pour que la foule l'entende mieux. Et vous savez qu'à un certain moment, il a demandé à Pierre, il avait rencontré Pierre quelque temps auparavant, puisque dans le chapitre précédent, chapitre 4 de Luc, nous lisons que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre dans la même ville. Donc Jésus connaissait Pierre, il savait que cette barque appartenait à Pierre. Donc il est rentré dans cette barque et après avoir prêché, il nous a dit que il a dit à Pierre, viens, nous allons aller pêcher. Et Pierre lui a répondu, mais Seigneur, toute la nuit, nous sommes allés en eau profonde. Et nous avons jeté nos filets, mais aucun poisson n'est venu dedans. Il voulait dire à Jésus, Seigneur, actuellement, c'est pas le bon moment. Les poissons, ils sont pas là. Ils sont peut-être partis plus loin dans le lac, mais en tout cas, il n'y a pas de poissons. Et en même temps, il s'est rappelé que Jésus, la veille, avait guéri sa belle-mère. Et vous savez, des gens qui guérissent les autres, ça court pas les rues. Des gens qui, en un instant, font partir la fièvre, ça court pas les rues. Et Pierre s'est dit, mais c'est vrai que Jésus, il a quelque chose de plus. Pour avoir guéri ma belle-mère hier, comme cela instantanément, sur une seule parole, ou peut-être sur un seul geste, Jésus a quelque chose de particulier. Alors la Bible dit que Pierre a dit, Seigneur, bon, d'accord, j'ai rien péché de la nuit, mais sur ta parole, puisque tu le dis, on va jeter le filet. Et ils se sont éloignés du rivage et un peu plus loin, arrivés vers le milieu du lac sans doute, Pierre, ou un peu plus loin simplement, Pierre et ses amis ont jeté leur filet. Et la Bible dit que, très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose. Très rapidement, ils ont vu qu'il y avait des poissons qui rentraient dans les filets. Ils ont senti sans doute les filets bouger. Ils connaissaient la technique, moi je ne la connais pas, mais ils la connaissaient eux parce qu'ils étaient pêcheurs de métier. Et très vite ils se sont rendus compte que les filets se remplissaient de poissons. Et la Bible dit que les filets étaient tellement remplis qu'ils étaient en train de commencer à se casser par endroits. Et ce qui est intéressant pour nous dans le thème de la crainte de Dieu, c'est de voir quelle a été la réaction de Pierre. Pierre aurait pu dire, Seigneur, mais t'es un génie. C'est extraordinaire ce que tu fais. Tu vas venir travailler avec nous. Parce que c'est vrai que si toutes les nuits ils prenaient autant de poissons, ils allaient devenir riches. Non, Pierre n'a pas réagi comme cela. Pierre, nous est-il dit, a été saisi de crainte. En fait, cette crainte qu'il a eue, c'est une véritable crainte de Dieu. Mais devant la manifestation de la puissance de Dieu, telle qu'elle s'est manifestée dans ce miracle, parce que c'était un miracle, en tout cas c'est comme cela que Pierre l'a compris, lui qui connaissait, j'allais dire, le terrain, c'est-à-dire le lac, les eaux du lac, il devait les connaître par cœur, en comprenant que seul quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui certainement était en relation avec Dieu directement, quelqu'un qui avait ce pouvoir extraordinaire et surnaturel de créer à partir de rien, ou de changer le rien en plénitude, comme c'est le cas. En comprenant cela, Pierre a été saisi d'une véritable crainte, mais une crainte, nous allons le voir dans quelques instants, fructueuse, constructive. Même si là, on peut discerner chez Pierre une sorte de terreur quelque part, parce qu'il dit à Jésus aussitôt, « Seigneur, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. » En quelque sorte, « Ne reste pas avec moi, ne reste pas en ma présence, parce que tu es beaucoup trop grand pour moi. Je suis un homme pécheur. » Et là, il ne faisait pas un jeu de mots. Hein. Il savait qu'il était pécheur de métier, mais il a commencé à réaliser qu'il était aussi, surtout, un pécheur devant Dieu. Un pécheur, c'est-à-dire un homme qui est indigne d'être en présence de Dieu. Alors, Jésus l'a rassuré tout de suite, lui a dit, mais ne t'inquiète pas, Pierre, maintenant tu seras pécheur d'hommes. Maintenant, c'est plus des poissons que tu pêcheras, ce sont des êtres humains. Jésus voulait faire allusion à la moisson d'âmes qu'il allait faire bientôt après, à partir du jour de la Pentecôte. Pierre a été bouleversé par la présence de Jésus. Et pourquoi je disais que c'était une crainte constructive, celle-là aussi? Parce qu'elle a amené Pierre, comme le fait toujours la vraie crainte de Dieu, à agir et à entreprendre une action qui allait porter du fruit pour le royaume de Dieu. Quelle action a entrepris Pierre aussitôt? Il nous est dit que aussitôt après, quand ils ont ramené les barques sur le rivage, sur la plage du lac, Pierre et ses amis, qui étaient avec lui dans les barques, ont tout laissé pour suivre Jésus. La vraie crainte de Dieu a toujours un effet constructeur. La crainte de Dieu n'est pas une crainte qui nous paralyse au point que nous n'osons plus rien faire. Comme quelqu'un qui dirait, moi maintenant j'ai compris que Dieu est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est aussi quelqu'un qui un jour nous jugera. Alors pour ne pas risquer d'être jugé et condamné surtout, je ne vais rien faire. Je vais m'efforcer de ne rien faire de mal, mais je ne vais pas bouger, je viendrai juste à l'église, je lirai la parole de Dieu, je ne dirai pas un mot de trop, je ne ferai plus rien pour ne pas risquer de faire du mal. Mais cela, ce n'est pas la conception biblique des choses. La crainte de Dieu, comme nous le voyons dans ces différents exemples que j'ai cités cet après-midi, la crainte de Dieu est toujours un sentiment constructeur, un sentiment qui va produire des résultats. Nous avons lu tout à l'heure ces deux textes qui nous montrent combien dans la première église, la crainte de Dieu était présente. Et on rencontre le mot crainte de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que la crainte les animait. À un certain moment, il est dit que les gens du dehors, donc pas les chrétiens, mais les gens du dehors qui les côtoyaient, qui les voyaient vivre, n'osaient pas se joindre à eux. Ils n'osaient pas se joindre à eux parce qu'ils voyaient les miracles que Dieu faisait au milieu d'eux. Ils voyaient l'amour qui partageait entre eux. Comme nous avons chanté tout à l'heure, nous sommes un dans un lien d'amour. Ce lien d'amour existait à la puissance, je ne sais combien, puissance 10 dans l'église, dans la première église. Alors les gens voyant cela, ils n'étaient pas habitués à voir de telles choses. Ils n'osaient pas se joindre à eux parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. La Bible nous enseigne à vivre dans la crainte de Dieu. Le deuxième texte que nous avons lu nous dit que l'église était en paix, qu'elle s'édifiait, donc elle se construisait, et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et nous voyons dans le livre des Actes que c'est un des éléments qui explique la croissance exponentielle ou la croissance extraordinaire de cette première église. C'est un des éléments. Un des éléments, c'est cette crainte de Dieu dans laquelle marchaient les premiers chrétiens et qui a permis à Dieu de s'exprimer librement au milieu d'eux. Et c'est en cela que la crainte de Dieu est quelque chose de positif et même plus de constructif. C'est parce que lorsque le peuple de Dieu vit dans la crainte de Dieu, pas la terreur, mais la crainte respectueuse de Dieu, Dieu peut agir au sein de l'Église comme il le voudrait. Alors que Dieu nous aide à vivre dans sa crainte et à marcher devant lui en étant conscient de sa présence dans notre vie afin qu'il puisse agir librement dans notre vie. Amen.